Bien, alors je vais continuer et puis faire un petit peu jouer le coucou, puisque d'une certaine façon, en fait, j'ai profité de la réflexion et donc du cadre théorique proposé par Bernadette pour réfléchir justement à la question suivante. C'est dans quelle mesure, ou en tout cas quelle place, quelle relation les phénomènes de stéréotypie dont vient de parler Bernadette, quelles sont les relations qu'on peut établir entre ces phénomènes de stéréotypie et les pratiques d'écriture généralement observées au collège et au lycée. Hein, donc je vais essayer de voir justement, et les corpus que je vais vous proposer, et puis la lecture de certains textes qui accompagneront là ma présentation, portera justement là-dessus. Cette question-là que vient d'évoquer Bernadette, à savoir comment on travaille avec des élèves qui sont spontanément dans du stéréotype, et comment on va travailler justement la variation, comment on va travailler cette mise à distance et ce travail avec le stéréotype dans les pratiques d'écriture. Alors, une notion justement pour justement, enfin que là ce soit clair là-dessus, c'est cette notion d'écriture d'invention. Je ne sais pas si au primaire c'est une notion qui est descendue, si vous l'utilisez. Parce que effectivement, l'écriture d'invention, c'est cette notion qui a été introduite au lycée, notamment en 2001, avec les nouveaux programmes, et notamment qui a fait l'objet d'une épreuve au baccalauréat. Hein, donc, effectivement, à côté du commentaire littéraire et de la dissertation, l'écriture d'invention. Et cette écriture d'invention, je vais retenir un aspect justement de cette écriture d'invention. C'est cette écriture que l'on dit hypertextuel, c'est-à-dire qui travaille à partir d'un texte source, hein, donc à partir d'un texte littéraire où l'on demande à l'élève de travailler soit sur la pratique de la transformation du texte, hein, donc effectivement on va faire une greffe, élément assez connu, c'est-à-dire la suite de texte par exemple, hein, ou insérer un dialogue à l'intérieur d'un texte narratif. Donc on est ici sur la première modalité la pratique d'écriture d'invention. Le travail de transposition, c'est-à-dire je pars d'un texte littéraire et puis par exemple, j'ai un récit et puis j'en fais un dialogue. C'est-à-dire je change de cadre générique, je passe d'un cadre du texte narratif et puis je vais exploiter les données du texte narratif pour le transposer sous la forme d'un dialogue. Et puis, autre forme, le travail de l'imitation. Et là, effectivement, une pratique assez courante dans les pratiques d'écriture, hein, c'est-à-dire qu'on a des modèles littéraires, et puis ces modèles, eh ben, on va s'en servir pour dégager des cadres, ben, justement, de stéréotypie de genre, par exemple, pour inviter l'élève ensuite à travailler. Donc, importance effectivement de concevoir l'écriture, enfin telle qu'elle est, dominante au collège et au lycée, c'est la référence constante à un cadre et à un texte source. C'est-à-dire, on travaille beaucoup, bien sûr, dans cette relation entre des modèles littéraires et dont on va tâcher effectivement d'imiter le format, par exemple. Donc, premier point sur cette pratique d'écriture et de lecture a bien sûr beaucoup à voir avec la notion de stéréotypie notamment dans la recherche sur les régularités de genre. C'est-à-dire que autant en lecture qu'en écriture, on est amené à travailler sur le fonctionnement des textes, sur l'analyse des formes littéraires, et puis pour inviter justement l'élève à apprécier justement les composantes des textes. Donc ce sont des clés, les stéréotypes de genre par exemple deviennent des clés pour la lecture, dès l'instant où on admet par exemple que lire c'est classer. Et donc, effectivement, on va travailler sur des classements et on va souvent, dès la sixième, amener les élèves à lire dans du genre, c'est-à-dire qu'on va repérer qu'on est dans des lectures romanesques ou dans des lectures théâtrales et qu'à partir de là, on va proposer un cadre pour lire les textes et donc repérer des stéréotypes particuliers en fonction des genres. Donc, importance effectivement du cadre théorique et notamment de la stéréotypie pour justement travailler sur les lectures. Mais c'est aussi un point important dans les pratiques d'écriture. Effectivement, on se rend compte que les stéréotypes ont beaucoup inspiré justement les travaux de didactique. Pourquoi ? Parce que justement, ça permet de construire des matrices textuelles. On travaille sur des temps d'observation, et puis on va ensuite être sur de la reproduction. Donc, importance justement, et là c'est, je le place ici, cette réflexion de Karl Kahnwath, hein. En écriture, on sait qu'il n'est pas de pratique scripturale qui ne se situe en fonction d'un système générique préexistant, que ce soit pour le respecter ou pour le transgresser. Plus précisément, la dimension relativement normative, prescriptive du genre fait de lui une unité de structuration, d'organisation et de composition qui facilite les guidages globaux ou sectoriels de l'écriture. Alors, par rapport à ça, on voit effectivement que repérer les formes des genres, des formes de genre, va servir de contrainte productive. Hein, donc on va travailler sur ces contraintes et on va pouvoir reproduire des formats. Donc, ça a un avantage, bien sûr, parce que ça permet à l'élève de se repérer, et quand il a acquis des notions sur le genre théâtral ou sur le genre du récit, il va pouvoir reproduire ces formes-là. Donc on est dans un cadre qui est très sécurisant, mais à la fois c'est un cadre qui peut être parfois problématique, parce que ça introduit nécessairement une dimension de modélisation très forte. C'est-à-dire que ce que ça introduit, c'est cet applicationnisme dans lequel on est, c'est-à-dire dans ce rapport très fort entre le lire et l'écrire. C'est-à-dire qu'on présuppose qu'il faut nécessairement que l'élève ait un ensemble de modèles littéraires pour pouvoir écrire. Et ça, c'est effectivement l'approche que l'on a véritablement de l'écriture au lycée, mais aussi au collège, c'est-à-dire cette subordination de l'écriture par rapport au texte littéraire. Et il me semble-t-il, c'est ça qui, justement, est d'une certaine façon problématique. Alors, problématique pourquoi ? Ben, justement, je vais recenser ici un ensemble de problèmes, justement, sur cet exercice de l'imitation et l'exploitation des figures de la stéréotypie et les difficultés que j'en vois, justement, dans les modalités pratiques de la classe. La première chose, c'est qu'on se rend compte que poser le texte littéraire comme un modèle, comme un support pour l'écriture, met en place, d'une certaine façon, des objectifs antagonistes. Je m'explique. C'est comment rendre compatible, d'une certaine façon, une lecture littéraire centrée sur l'interprétation et une lecture qui aurait pour finalité la préparation d'un écrit, c'est-à-dire qui va privilégier plutôt le recensement des formes, le recensement de procédés textuels. C'est-à-dire cette tension qu'il y a entre les lectures que l'on dirait plutôt particularisantes, c'est-à-dire qui vont accueillir le texte littéraire dans sa complexité, dans sa singularité, et l'autre plutôt vers une lecture généralisante qui va voir dans le texte un modèle exemplaire d'une forme et d'un genre. C'est-à-dire comment, d'une certaine façon, cette menace que subit le texte littéraire, ce risque de l'instrumentalisation permanente. C'est-à-dire quand on est en classe, au lycée, on est en classe au collège, on propose des textes, et puis rapidement, on a en projet de faire écrire à l'élève un texte, donc comme un mode d'évaluation. Et on se rend compte en fait que la lecture du texte, elle est conditionnée par cette évaluation que je vais proposer. Et que d'une certaine façon, je vais faire du texte un modèle de genre et non pas nécessairement avoir une démarche de lecture qui va travailler sur la singularité véritablement de ce texte. Donc, première difficulté sur exploitation et instrumentalisation du texte littéraire que je repère justement dans cette recherche permanente des stéréotypies de genre. L'autre chose, c'est la consigne d'écriture et de voir en fait que bien souvent, on est face à une proposition qui est, me semble-t-il, sans perspective véritable d'évolution. Là encore, on se rend compte que quand on a cet horizon de l'écriture, on a un matériau qui est préparatoire, c'est-à-dire on a des textes sources, et on a un ensemble, un corpus de textes, et on s'est dit, tiens, à partir de ce corpus, les élèves connaissent, ont suffisamment d'éléments pour pouvoir reproduire. Donc on est dans une logique de modélisation, on va en repérer ces constituants, et puis on va alors, à partir de là, proposer une consigne qui sera justement à la manière d'eux, hein, dans une logique d'imitation d'une certaine façon, et on va pouvoir exploiter ce qui aura été vu, notamment en situation de lecture. Et donc on voit que on est dans un cadre d'une production qui est généralement contrainte, c'est-à-dire avec des marges d'initiative pour l'élève bien sûr très réduites. D'autant que la proposition d'écriture dans ce cadre-là, que ce soit au collège comme au lycée, a rarement vocation à être transgressée. Je suis dans une logique, là encore, effectivement, de respect de la consigne absolue. Dans ces conditions, on se rend compte bien souvent aussi d'une écriture qui court le risque d'un grand formalisme, c'est-à-dire que je vais attendre de l'élève l'application de procédés qui auront été construits, élaborés dans le cours des lectures. Donc, difficulté de ce point de vue-là. L'autre chose, c'est le texte produit, où on voit justement qu'on est dans une démarche de processus largement écartée. En effet, dans la mesure où l'ensemble des données en vue de la rédaction sont construites en situation de lecture, c'est-à-dire en amont de la production, on va admettre justement que l'élève dispose d'une quantité suffisante d'éléments pour réaliser un texte satisfaisant. Et donc, on présuppose aussi que le texte produit n'a pas un statut évolutif, puisqu'on a demandé effectivement à l'élève de produire un format, un texte qui appartient à une certaine catégorie de genre, et dans ce cas-là, il va devoir effectivement respecter un ensemble de grilles, si vous voulez, hein, qui sont des grilles qui auront été établies, qui sont à la fois des grilles de production et des grilles d'évaluation. Donc, on n'est pas dans un processus justement d'écriture. Et donc là encore, je vois cette difficulté, hein, dans cette recherche justement de respect de certaines formes de stéréotypie de genre. L'autre chose, c'est cette signification de l'écrit, c'est-à-dire une application de critères. Alors c'est très net effectivement. Karl Kandat dit par exemple, le relevé des critères de genre en lecture permet de passer à des genres de critères pouvant servir de répertoire de consignes d'écriture. Donc on est relevé de critères de genre en lecture et on construit à partir de là un répertoire de consignes d'écriture. Alors, là encore, on voit bien que c'est intéressant parce que pour l'enseignant, il a un cadre formel et il va proposer à l'élève d'exploiter ce cadre et de se situer dans cette pratique d'écriture. Mais première chose, c'est que première difficulté, me semble-t-il, c'est qu'un répertoire de consignes d'écriture n'assure jamais la réussite scripturale. Enfin, c'est bien sûr pas suffisant. Et puis, souvent, ce qui me semble un peu difficile et un peu problématique, cette prise de position, c'est que l'articulation lecture-écriture se fait souvent aussi à sens unique. C'est-à-dire qu'on prive là encore l'apprentissage de l'écriture des variations multiples, justement, qu'offriraient les interactions orales écriture, lecture. Et donc souvent on est dans une pratique d'écriture qui est descendante, c'est-à-dire on part des modèles de genre, on part de la lecture pour ensuite être dans une exploitation du point de vue de l'écriture. L'autre chose, c'est que cette démarche-là, me semble-t-il, fait à l'école, au collège et au lycée, véritablement de la part de l'élève un exécutant. C'est-à-dire que ce schéma-là général de l'écriture d'invention place l'élève ordinairement dans une pratique d'exécution de la consigne, c'est-à-dire un texte qui va répondre à des contraintes précises de réalisation. Et là, ce sur quoi on peut s'interroger justement dans la situation d'écriture en classe, c'est quelle est la part d'initiative du sujet élève, du sujet scripteur. Quelle est la possibilité justement qui lui soit offerte de prendre réellement parti, d'être partie prenante d'un projet d'écriture qui pourrait être susceptible de le faire progresser aussi dans son rapport même à l'écriture, de le conduire à reconsidérer ses propres schémas d'action ou ses propres représentations vis-à-vis de l'écrit. Et on se rend bien compte, effectivement, que le modèle dominant de la pratique scripturale, c'est bien être dans une pratique de restitution de format, hein, de genre, et non pas, effectivement, de placer l'élève dans comment va-t-il apprendre, justement, à acquérir ou en tout cas à prendre une certaine distance ou à avoir développé une certaine réflexion par rapport à son propre rapport à l'écrit. Et ce rapport à l'écrit est me semble-t-il, là aussi assez absent dans les démarches générales d'écriture telles qu'on le voit pratiquer en classe. Alors, L'autre chose, c'est effectivement, du point de vue de l'évaluation, un système aussi qui peut apparaître comme contre-productif. C'est-à-dire que on a, dans un souci d'objectivité, établi des critères de notation qui vont être alignés sur des critères de réalisation. Mais là encore, il est souvent très difficile d'ignorer ce qui échappe à une grille critériée. C'est-à-dire, comment prendre en compte dans le texte l'expression de la subjectivité, comment faire effectivement ensuite, pour l'enseignant, de se mettre à distance par rapport au texte source. Parce que bien souvent, effectivement, on va évaluer les textes par rapport à des référents textuels qui sont effectivement des modèles littéraires. Et donc, il y a bien sûr cette difficulté là aussi de prendre comme modèle des textes littéraires et ensuite d'évaluer des textes d'élèves. Parce que bien sûr, il y a une grande distance entre ce que produit un élève, même à partir d'un texte d'auteur. Et ensuite, autre grosse difficulté, à partir de là, comment apprécier aussi une production qui a souvent les marques simplement d'un premier jet. C'est-à-dire, bien souvent, on se rend compte que le premier jet est plus la base d'un travail plutôt qu'un état accompli, hein, et c'est plus justement le seuil d'un projet scriptural plutôt que quelque chose qui est présenté comme étant clos. Donc, faire en sorte effectivement que cette démarche-là face, et c'est le dernier point, c'est la question d'une permanence, je constate, enfin, me semble-t-il, des modes d'apprentissage. C'est-à-dire que on va nécessairement, et les instructions officielles telles qu'elles ont été dessinées ont d'une certaine façon entériné cela, c'est-à-dire la manière dont on va d'un mouvement qui va plutôt de la lecture vers l'écriture, c'est-à-dire d'un repérage des stratégies, des procédures d'écriture, à un réinvestissement immédiat. Et souvent, justement, faire en sorte que l'écriture ne soit plus un lieu de situation problème. Et donc, dans cette démarche-là, on est bien souvent dans une démarche de reproduction et d'imitation qui bouleverse pas les activités et notamment aussi le schéma général des enseignements en classe. Ça ne bouleverse pas les rôles habituellement tenus par la lecture et l'écriture. Il y a toujours effectivement cette forme assez dominante des séquences telles qu'elles sont présentées, c'est-à-dire on est dans un projet de lecture et de ce projet de lecture découlera ensuite une production d'écriture. Donc, on se rend bien compte ici, donc de ce que j'ai essayé de rapidement de décrire, me semble-t-il, avec cette notion de stéréotypie, de concevoir un peu l'écriture souvent comme une chambre d'enregistrement, de parcours de lecture qui vont instituer le genre, d'une certaine façon, en sorte de majordome rédactionnel. C'est-à-dire, voilà, on a des catégories et on va pouvoir ensuite les reproduire. Donc, bien souvent, on se rend compte que cette approche institue des rituels de formation très forts. Donc, qui va d'un mouvement de la lecture vers l'écriture, ce repérage des stratégies. Et donc, on peut comprendre dans ce cas-là que la prise d'initiative de l'élève est relativement réduite. Et puis, l'autre chose, c'est une réduction de l'initiative. Et l'autre difficulté, c'est quelle possibilité pour l'erreur, quelle possibilité pour le tâtonnement, quelle possibilité pour une pratique de l'essai, justement même si effectivement on va travailler à partir de modèles. Donc comment travailler dans ce rapport un peu complexe, c'est j'ai besoin de modèles, mais à la fois comment laisser une place à l'initiative de l'élève dans ce travail-là. Donc, et c'est un peu la question, justement, me semble-t-il, que tout professeur est amené à se poser, c'est quelles sont justement ces convergences possibles entre la nécessaire acquisition du code, la maîtrise des stéréotypies de genre et, par exemple, la présence ou en tout cas la prise en considération de l'expérience du sujet scripteur. Donc, comment parvenir effectivement à se situer dans cette tension-là ? Alors, il m'a semblé que justement un des points qui pouvait être intéressant, c'était de garder cette idée de l'écriture de la variation. Je la définis de façon rapide. C'est cet ensemble des reconfigurations successives d'un état textuel produit par un élève. C'est-à-dire, dans une démarche de la génétique textuelle, qui serait justement de proposer à l'élève d'être dans un processus de réécriture. Avec ce postulat initial, avec lequel on sera peut-être amené aussi à discuter, hein, c'est cette réflexion qui me semblait intéressante d'Almoud Grésillon dans un article justement du Français Aujourd'hui, c'est faire autrement plutôt que faire mieux. Hein, à l'école, on dit souvent à l'élève, ce n'est pas bien, il faut faire mieux. Mais ce qu'on ne lui a pas permis de découvrir, c'est que réécrire peut être un jeu, que ce n'est pas tout de suite soumis à la notation, que c'est un plaisir. C'est pourquoi je préfère dire simplement qu'on revient sur ce qu'on a fait, dans le plaisir de créer de la variation et du multiple. Donc, moi, c'était, enfin, et très rapidement, effectivement, dans le travail que j'ai pu conduire et dans les classes que j'avais en responsabilité et puis dans le travail de recherche, c'était cette idée, cette notion justement du faire autrement plutôt que du faire mieux. Et comment justement concevoir un enseignement qui partirait justement de cette notion de variation. Alors, je vais prendre simplement quelques... Voilà, avant de céder la parole à Bernadette. C'est, voilà, à partir de certains postulats que j'éclairerai à partir des corpus que j'ai apportés, c'est à partir de l'écriture de la variation, qu'est-ce que ça aménage, qu'est-ce que ça transforme dans un enseignement du français au collège et au lycée. Tout d'abord, comme faire de l'écriture un objet d'organisation d'une séquence, au même titre que la lecture. C'est-à-dire comment faire que l'écriture soit aussi un objet qui devient un objet programmatique d'une certaine façon et organisationnel. Comment faire que l'écriture structure, par exemple, un projet de classe. Au même titre qu'un projet de lecture, souvent, lorsque l'on est dans des pratiques de lecture au collège et au lycée, sur des lectures de groupements de textes ou d'œuvres intégrales. De la même façon, comment faire que l'écriture soit très vite et très tôt dans un projet de séquence présente. Deuxième chose, c'est une écriture de la variation cherche à assurer une intégration progressive des nouveaux savoirs et des savoir-faire. C'est-à-dire, comment faire que je ne sois pas nécessairement dans une logique de je propose d'abord un ensemble de savoirs et de savoir-faire à l'élève qu'il va ensuite appliquer dans une pratique d'écriture, mais comment je fais justement pour que ces savoirs même ou ces savoir-faire soient progressivement découverts ou rediscutés, remis sur le chantier propre de l'écriture. Et que donc effectivement le lieu de l'écriture soit véritablement un lieu de construction de savoir et de savoir-faire, et pas simplement un lieu d'évaluation. Hein, c'est-à-dire que aussi on soit dans une démarche d'une écriture qui est formative. Troisième point, une écriture de la variation qui entraîne un autre positionnement des interactions lecture-écriture. Et là aussi, à mon sens, ça interroge nécessairement l'ensemble des configurations d'enseignement et d'apprentissage du point de vue des interactions lecture-écriture. Et que ne soit pas nécessairement dans ce rapport un petit peu d'une lecture et d'une pratique descendante de la lecture vers l'écriture, mais qu'à un moment donné, effectivement, l'écriture soit d'une certaine façon le marchepied ou le lieu de travail qui nécessite à un moment donné d'aller vers la lecture. Autre point, une écriture justement de la variation qui aménage ou qui permet l'introduction de problèmes d'écriture. Et là aussi, comment faire en sorte que l'élève, à un moment donné, dans un projet d'écriture, s'interroge sur les manques qu'il constate effectivement, ses propres difficultés, ou du moins certaines compétences qu'il n'a pas, ou des modèles qu'il ignore et qu'il irait chercher justement dans des modèles littéraires. Hein, et que donc, à un moment donné, la notion de problème, de situation problème, soit posée du fait justement de l'écriture de la variation. Et puis bien sûr, puisqu'on est dans de la variation du multiple et de la réécriture, on est bien effectivement dans une logique du processus d'écriture et comment instituer dans la classe cette notion-là. C'est-à-dire faire que l'écriture soit véritablement l'objet s'inscrive dans une temporalité et que ce ne soit pas simplement un moment un texte comme dans une perspective du produit, c'est-à-dire qui vient clore une séquence d'apprentissage. On fait un texte, on le note, on l'évalue et on n'a pas ensuite, effectivement, ce texte n'a pas de devenir. Donc là aussi, en classe, comment faire en sorte qu'on soit véritablement dans cette démarche-là. Je m'arrête là.